Europe 1, il est 6h.
Je pense qu'il y a une très forte solidarité médicale et paramédicale. On fait tous le même travail. On sait la charge de travail, la charge émotionnelle que ça peut représenter.
La solidarité entre soignants, des infirmiers, médecins, anesthésistes de toute la France viennent dans le Grand Est soulager les équipes débordées par les malades du Covid-19. Plus de 4600 personnes sont ce matin en réanimation en France et la crainte d'une pénurie de respirateurs. Un seul producteur dans notre pays, d'autres entreprises vont aider à en fabriquer plus, dont PSA.
C'est une activité indispensable, vitale aujourd'hui. Donc là, à partir du moment où les conditions sanitaires maximales sont assurées, c'est évident que nous sommes pour.
Dans ce journal, l'après-crise, Emmanuel Macron la prépare déjà. Et puis on vous emmène en visite à Versailles. Oui, oui, c'est possible depuis votre salon.
On peut cliquer sur le lit du roi et rentrer dans l'intimité des rois de France en allant littéralement dans le lit du roi.
Votre invité à 6h40, Mathieu.
C'est sa première radio puisqu'elle a pris ses fonctions le 1er mars dernier. Virginie Lahaye, commissaire à la tête de la brigade des stupes de Paris, l'impact du confinement sur le trafic de drogue. Ce sera à 6h40 sur Europe 1. 6h01, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il faut désengorger les hôpitaux des régions sous très forte tension hospitalière. C'est le cas du Grand Est. Les évacuations des patients dans les états les plus graves vont se poursuivre aujourd'hui, ces prochains jours, après qu'hier, plusieurs dizaines de ces malades ont été évacués par train, par avion militaire, vers la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi vers l'Allemagne.
Les soignants du Grand Est ont aussi besoin de renforts. C'est ainsi que des professionnels de santé volontaires vont venir renforcer les rangs. À Metz, à Nancy, une vingtaine d'urgentistes, d'aides-soignants, infirmiers venus notamment de Nouvelle-Aquitaine, région moins sous tension. Et parmi eux, Nathalie, anesthésiste à Bayonne. Elle commence ce matin à Metz.
Pour chacun d'entre nous, ça a été une évidence. On en a parlé aussi avec nos proches, nos familles, pour qui ça a été une évidence. Et c'est pour ça qu'on arrive tous très motivés. On sait qu'on est là pour travailler à fond pendant 4 jours. On a tous eu déjà nos confrères sur place, au téléphone, pour organiser les choses. Ils nous ont envoyé un maximum de choses pour qu'on soit efficace dès notre arrivée. Je pense qu'il y a une très forte solidarité médicale et paramédicale. On fait tous le même travail. On sait la charge de travail, la charge émotionnelle que ça peut représenter. Parce que quand on enchaîne les gardes, ou les infirmières enchaînent les rotations, eh bien, on voit plus sa famille, on est constamment à l'hôpital, et d'avoir un renfort extérieur, ça permet simplement de souffler. Bon, j'espère qu'on aura été utile, j'espère que on aura pu soulager les équipes ici, leur venir en aide, et puis aussi apprendre et partager leur expérience d'une situation sanitaire absolument inédite auquel on ne peut pas se préparer avant d'y être confronté, je pense.
Nathalie, une anesthésiste de Bayonne qui vient renforcer les effectifs dans le Grand Est, propos recueillis par Hélène Terzion.
13 jours désormais que nous sommes tous confinés. Nous voulions ce matin vous donner des nouvelles d'Anaïs, mère de famille de 48 ans. Elle habite à Vaucresson dans les Hauts-de-Seine. Elle et deux de ses fils ont ressenti les symptômes il y a 2 semaines. Aujourd'hui encore, le quotidien reste difficile.
La dernière fois, c'était une rechute à J+11 où j'avais carrément pleuré. Et là, aujourd'hui, je suis en rechute par rapport à avant-hier et à hier. C'est vrai qu'on n'en voit pas la fin, on n'en peut plus. Et puis, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Moi, J15, j'ai encore essoufflé, j'ai encore quand même mal à la gorge, aux poumons. Donc, on s'inquiète parce que le corps, en plus, se fatigue quand même. On maigrit. Moi, j'ai mis 5 kilos quand même. Et j'ai super mal au crâne. Franchement, j'étais prête. Là, je serais prête à prendre n'importe quoi, quoi. Pour calmer la douleur et pour que le virus disparaisse. Si on me disait on va tester un traitement, je le testerais tout de suite, quoi. Parce que c'est super, non, ce virus. Vu mon état là et vu encore l'état des enfants, je pense que je vais être HS peut-être 1 mois derrière, 2 mois, je sais pas. C'est pas une grippe, quoi. C'est un choc pour l'organisme, voilà.
Anaïs, dont nous vous donnons régulièrement des nouvelles sur Europe 1, 15 jours qu'elle a ressenti les premiers symptômes, propos recueillis par Marion Gauthier. Et selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, les premiers effets bénéfiques du confinement pourraient être constatés à la fin de cette semaine, s'il est respecté, bien sûr, ainsi que les gestes barrières. La vague épidémique approche en France, la maladie progresse beaucoup, notamment en Île-de-France. L'un des indicateurs clés de la progression du virus, c'est le nombre de patients admis tous les jours en réanimation, plus 359 ces 24 dernières heures, total 4632 personnes. qui nécessitent d'être placés sous respirateur.
Des appareils indispensables dont il faut anticiper un possible manque. Plusieurs entreprises françaises sont mobilisées, Aurélien Fleureau.
Il n'y a qu'un seul producteur de ventilateurs de réanimation en France, c'est le groupe Air Liquide, dont la filiale Santé produit sur son site d'Antony dans les Hauts-de-Seine 500 respirateurs par mois pour les hôpitaux. Cette production est en train d'être doublée, elle sera triplée en avril et quadruplée en mai. Les équipes d'Air Liquide sont aussi mobilisées jour et nuit, 7 jours sur 7, sur une cinquantaine de chantiers pour accroître la capacité de stockage en air et en oxygène des hôpitaux. L'entreprise produit également des bouteilles d'oxygène utilisées lors de transports de patients d'un hôpital à un autre. Et puis un partenariat est à l'étude avec PSA, le constructeur automobile envisage de mettre en place un atelier pour assembler les pièces des respirateurs, selon Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA.
On ne sait pas encore si c'est à l'usine de Poissy ou c'est chez un sous-traitant. Et là, on dit, nous, banco, bien sûr que ça, c'est une activité indispensable, vitale aujourd'hui. Donc là, à partir du moment où les conditions sanitaires maximales sont assurées, c'est évident que nous sommes pour.
Chez PSA, pas question, en revanche, de reprendre la production automobile. Le site de Valenciennes devait progressivement rouvrir à partir d'aujourd'hui. La direction a finalement dû reculer devant l'hostilité des salariés.
Et partout en France, les personnels soignants continuent de réclamer des masques de protection. Ça arrive tout doucement. Le gouvernement en a commandé plus d'un milliard, notamment à la Chine. Un premier avion cargo en a livré hier 5 millions et demi. Il a atterri dans l'après-midi à l'aéroport de Roissy en provenance de Shanghai. Eux aussi sont en première ligne face au virus, ce sont les pompiers. Ils doivent répondre aux appels liés à l'épidémie en plus de leurs interventions habituelles et ils demandent eux aussi des mesures de protection.
Bonjour Grégory Allian.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Jérôme Lacroix a bien fait de le rappeler, il ne faudrait pas l'oublier, les pompiers aussi sont mobilisés dans cette course contre la montre pour contenir le virus notamment. Alors d'abord, Grégory Allian, comment s'est passé le week-end sur le terrain, selon les régions bien sûr?
Mais le week-end a été très intense, notamment dans le Grand Est toujours, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, avec d'autres régions qui se préparent. Donc se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper, ça veut dire prendre la tâche de l'ensemble des centres hospitaliers, ça veut dire être prêt aussi à avoir la capacité de faire ce que l'on appelle des salles de débord, des regroupements de victimes. Donc tout est anticipé sur les territoires qui ne sont pas impactés actuellement et tout est sous tension dans les territoires, notamment les régions que j'ai citées, et je n'oublie pas la Corse également.
Alors qu'on entre dans le dur, là, après ce deuxième week-end de confinement, les pompiers sont-ils suffisamment équipés? Quand je dis les pompiers, c'est tous les pompiers, les pompiers volontaires aussi, assez considérés?
Je ne fais pas de différence. Il y a les pompiers professionnels qui sont très très mobilisés, les volontaires également, puisque nous avons la chance d'avoir une recrudescence de disponibilité, puisque l'activité est quasiment à l'arrêt au niveau du pays. Mais nous avons des situations très disparates, un petit peu comme dans les centres hospitaliers. Nous avons des centres de secours, des services départementaux d'incendie et de secours qui ont 15 jours d'avance en termes d'équipement de protection individuelle. En revanche, il y a des secteurs, des régions où il y a 3-4 jours d'avance. Et nous comptons sur les stocks nationaux. Nous avons appris effectivement, comme vous, qu'il y avait des commandes urgentes, mais nous manquons, comme tout le monde, de vision à long terme. Et on nous annonce en plus que ce virus n'est pas prêt de partir.
Grégory Allian, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes après ce week-end pour les auditeurs d'Europe 1 en direct dans le journal de 6h, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Plus de 2600 personnes sont mortes en France des suites du Covid-19, des décès à l'hôpital, c'est le dernier bilan fourni par les autorités. Ce chiffre ne comprend pas encore les décès dans les EHPAD. Ces précisions-là sont attendues dans les prochains jours. Une question douloureuse, comment les autorités vont-elles gérer cette vague de décès? Eh bien, des dispositions sont déjà prévues. Guillaume Bié, il existe dans chaque département un plan en cas de décès massif.
Oui, c'est un plan établi dans toutes les préfectures pour s'organiser face à une telle situation qui est inédite en réalité, mais qui a été anticipée sur papier dans tous les départements. D'après nos informations, depuis plusieurs jours, tous les préfets ont été incités par le ministère de l'Intérieur à mettre à jour tous les moyens dont ils disposent pour les mobiliser dès qu'il le faudra. Partout, les autorités ont déjà recensé les lieux qui pourraient accueillir des corps s'il le faut, entrepôts frigorifiques, gymnases, patinoire, comptabiliser le nombre exact de places disponibles dans les chambres funéraires et dans les chambres mortuaires des hôpitaux. Et si besoin, les préfets peuvent aussi faire appel à des camions réfrigérés. Car pour les victimes du Covid-19, il y a des consignes particulières du Haut Conseil de la Santé publique. Même un défunt peut transmettre le virus, par exemple au personnel hospitalier ou funéraire. Il y a donc tout un protocole précis et des délais à respecter concernant les centaines de personnes qui chaque jour succombent à la maladie, à tel point que selon nos informations, en région parisienne, la zone actuellement la plus touchée, eh bien des containers réfrigérés ont été installés auprès de certains hôpitaux pour faire face à cette vague de décès.
Guillaume Bier, j'aimerais aussi souligner que ces morts, ce ne sont pas que des chiffres. Et dans le contexte, c'est très compliqué d'accompagner un défunt, de réaliser son deuil quand on ne peut pas assister à un enterrement. Je sais que la question est dure, je sais que le sujet est difficile, mais après ce week-end, parce que ça vous concerne, je voulais qu'on en parle. Et entre 9h et 9h30, nous serons avec Tanguy Châtel, sociologue, spécialiste de la fin de vie et du deuil. Vous n'hésitez pas, vous apportez votre témoignage, 3921 et le hashtag Radio Ouverte.
Un chiffre qu'il faut également donner ce matin, Mathieu, 7132, le nombre de personnes qui a pu sortir guéries de l'hôpital. En Italie, pays qui enregistre le plus de décès, la progression du virus poursuit un léger ralentissement, plus de 10 000 morts déplorés, mais un nombre de contaminations qui baisse depuis 3 jours d'affilée. Et c'est une crise dont Emmanuel Macron tirera, il l'a dit, toutes les conséquences. En coulisses, ce travail a déjà commencé, Jean-Rémy Bodo.
Le président est dans l'action immédiate, mais il est déjà concentré sur la suite. Ce proche d'Emmanuel Macron le confie et ajoute « Chacun est appelé à nourrir sa réflexion. Le gouvernement esquisse des premières pistes. Bercy planche sur une refonte de notre souveraineté industrielle. Il faudra revoir la façon dont on produit, notamment des médicaments, pour être moins dépendant de la Chine et des États-Unis », glisse un proche de Bruno Le Maire. Retrouver de l'efficacité dans la dépense publique est un autre chantier. Nous avons beaucoup d'aides sociales, mais pas assez d'argent dans les services publics, affirme un conseiller. Autour du président, certains se penchent sur la notion de protection, théorisent que la fin du quinquennat tournera autour de 3 piliers, régalien, santé, sécurité, avec l'enjeu démocratique dans toutes les têtes. Dans cette crise, il est impensable que les régimes totalitaires soient plus efficaces que les démocraties, s'alarme un fidèle du président. Rien ne sera comme avant, répète l'Élysée, mais pour l'heure, on ne parle que de réflexion. Un proche en sourit. C'est comme si vous aviez demandé à De Gaulle en 40 ce qu'il ferait après la guerre. D'abord, il faut gagner la guerre.
Et c'est l'une des conséquences terribles du confinement. On en a parlé ici déjà. La possible recrudescence des violences conjugales, parfois de l'ordre de 30%. 30%, révélation hier de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, invitée du grand rendez-vous. Elle annonce la mise en place à partir d'aujourd'hui de nouveaux points d'accueil pour les victimes. Écoutez, cela va se passer dans les centres commerciaux.
Nous lançons à partir de demain, en partenariat avec Unibail Rodamco Westfield, qui est un gestionnaire de centres commerciaux, des points d'accueil et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences conjugales devant des hypermarchés. Il y a des centres commerciaux qui sont encore ouverts parce qu'il y a des hypermarchés à l'intérieur, des supermarchés, et les femmes s'y rendent souvent pour faire les courses pour la famille, et donc dans des lieux qui sont vides, mais qui sont équipés, propres, dans le respect des mesures barrières, bien évidemment. De la même manière, vous pouvez vous y rendre également si vous êtes témoin de violences conjugales et que vous êtes démuni, que vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous pourrez vous y rendre, et je remercie les associations locales et les services de l'État qui mènent ces permanences pour permettre aux femmes d'être protégées et soutenues.
La secrétaire d'État Marlène Schiappa, invitée hier d'Europe 1, épreuve que toute l'économie est touchée par l'épidémie. L'économie souterraine l'est aussi. Le trafic de drogue s'organise différemment. Nous avons enquêté, vous l'entendrez ce matin dans le journal de 8h, avec les restrictions de déplacement, de circulation, les consommateurs ont du mal à acheter par exemple du cannabis. Ce consommateur, Martin, l'a constaté en contactant récemment son dealer.
Et il nous a répondu que de la situation compliquée pour lui de se déplacer, que c'était à nous de nous déplacer. Et il nous a cité des points de retrait près de chez nous et que le montant minimum de commande était de 200 euros et non plus de 100 euros. Ça change parce que le risque n'est plus sur eux mais sur nous. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle de prendre autant de risques? C'est vrai qu'il y a des petites remises en question.
Des propos recueillis par Justin Morin, enquête complète dans le journal de 8h. J'ai peur que vous me détestiez, Mathieu, si je vous propose cela, mais tant pis. Que diriez-vous d'une flânerie à Versailles? Le château, les jardins? Alors, bonne idée, vous me direz, mais voilà, ce sera depuis votre salle à manger,
j'imagine,
vous en doutez.
Ouais.
C'est possible, sachez-le, le château reste ouvert aux visiteurs en ligne. Balade interactive avec Lord d'Autriche.
Se retrouver sur la scène de l'Opéra Royal, explorer les grands appartements de nuit à la lueur des feux de cheminée, tout cela est possible en quelques clics. 132 000 photos ont été prises pour recréer en 3D le château à la perfection. Vous pouvez scruter dans le détail à 8 mètres de hauteur les plafonds de la galerie des glaces peints par Lebrun et à gauche, pousser une porte, passer la balustrade dorée et entrer dans la chambre du roi, raconte Gaël Berthaud, chef de projet numérique au château de Versailles.
On peut cliquer sur le lit du roi et rentrer dans l'intimité des rois de France en allant littéralement dans le lit du roi. Et à ce moment-là, on se rend compte que le lit n'est pas du tout petit, il est immense. Ce qui est impressionnant, c'est de voir les tentures au plus près, donc ils sont brodés de fils d'or.
Avec cette visite virtuelle entièrement gratuite, vous pouvez aussi manipuler les œuvres d'art, faire tourner une sculpture sur elle-même, observer le mobilier sous tous ses angles. Il ne manque qu'une chose que seule la visite réelle offre, entendre craquer le parquet du château de Versailles sous vos pieds.
Une visite virtuelle entièrement gratuite dans le lit de Louis XIV, c'est pas mal. Et puis la déclaration corrosive du jour, Mathieu, elle est attribuée à Karim Benzema, un tacle on peut le dire, à Olivier Giroud, Benzema, vous le savez, banni de l'équipe de France de foot depuis plus de 4 ans suite à des mêlées judiciaires, remplacé par Giroud. Alors qui des deux est le meilleur? C'est ce qui a été demandé à Benzema hier lors d'un entretien sur les réseaux sociaux. Écoutez sa réponse.
On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Voilà, maintenant, next. Je parle même plus de vous.
C'est qui le karting?
Moi, je sais que je suis la F1.
Ah. Bon. Ben Zedi, Benzema
de... je sais pas. Ouais.
Ouais, bon.
Est-ce qu'on a besoin tout de suite de Benzema en ce moment?
C'est imagé. Bah oui, mais c'est... il a été privé notamment du titre de champion du monde. C'est difficile à accepter, mais il faut quand même préciser.
Qu'Olivier Giroud a pour le coup.
Ah bah, voilà, évidemment. Et Benzema a ajouté quand même, il faut le dire, que le style de jeu de Giroud convient bien à l'équipe de France. À défaut d'être spectaculaire.
Alors on va en parler, vous savez, on va reparler avec Virginie Fulpin dans l'édito Radio Ouverte. Envie de Benzema ou pas? Tiens, je vous pose la question. 39-21. Est-ce qu'il vous manque en ce moment? Peut-être que certains sont confinés avec une PlayStation en train de jouer à FIFA, je ne sais pas. Jérôme Lacroix, merci beaucoup. On était dans l'île Louis XIV et dans l'île Jérôme Lacroix ce matin. C'est votre premier journal en télétravail, Jérôme?
Bah écoutez, oui, hein, belle expérience. Hein,
belle expérience. Je suis ravi de vous retrouver avec nous dans l'équipe, mon cher Jérôme. Et à 6h30, c'est François Geffrier qui présentera le journal. On va revenir bien sûr sur le week-end qu'ont vécu les soignants sur le terrain, sur le front. Il est 6h17.
Europe 1.
Autre retour ce matin, celui de Fanny Agostini avant 6h30. Mais tout de suite, mon invité inattendu, une voix que vous allez reconnaître.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises.
Et oui, mais où est-ce qu'on les apprend en ce moment, les bêtises, justement? Henri Dess, confiné chez lui et en direct sur Facebook tous les jours, s'il vous plaît, à 79 ans, Henri Dess est là et il accompagne ses fans dans le confinement. On le retrouve dans un tout petit instant.